Et tout de suite, on va accueillir, bien sûr, Michel. Michel, bonjour.
Bonjour, Joël.
Voilà, la 81e chronique astro.
Voilà.
Voilà, et si vous voulez bien, Michel, voilà, j'ai rappelé qu'on peut suivre via constellations-galaxies.org. Vous en direz quelques mots, si vous voulez, juste à la fin de la chronique, car de suite, vous allez rentrer dans le vif du sujet sur l'actualité et de nouvelles détections d'ondes gravitationnelles.
Oui, le 7 novembre a été mis en ligne le Gravitational Wave Transient Catalogue, un catalogue répertoriant toutes les détections de telles ondes connues à ce jour, dont 35 nouvelles pendant la troisième campagne d'observation qui s'est déroulée de novembre 2019 à mars 2020 et a mobilisé les trois détecteurs existants opérationnels dans le monde, LIGO aux USA, avec deux détecteurs de 4 km de long espacés d'environ 3000 km, l'un en Louisiane et l'autre dans l'État de Washington, Virgo de 3 km en Italie, près de Pise, un projet lancé en coopération avec la France, auquel se sont associés depuis les Pays-Bas, la Pologne et la Hongrie, et enfin le japonais Kagra de 3 km également, mais pour une durée limitée car il a été seulement mis en service fin 2019. Ces 35 nouvelles observations enrichissent cette liste de détection d'une manière significative car elle n'en comporte au total que 90 depuis 2016, soit une période totale de 6 ans d'observation. Nous avions parlé ici en février 2016 de la première détection historique annoncée le 11 février 2016, mais qui remontait à septembre 2015 et ne concernait que LIGO, seul opérationnel à cette époque, et qui a valu le prix Nobel de physique 2017 à Rainer Weiss, Barry C. Barish et Kip Thorne pour, je cite les prix Nobel, leur contribution décisive à la conception du détecteur LIGO et à l'observation des ondes gravitationnelles. Cette première détection intervenait presque exactement un siècle après qu'Albert Einstein avait prédit l'existence de telles ondes dans le cadre de sa théorie de la relativité générale en 1916.
Alors vous avez déjà parlé dans les chroniques en 2016 de ces ondes gravitationnelles. Alors on rappelle Constellations et Galaxies, voilà, .org pourrait entendre ces chroniques. Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler, Michel, en quoi consistent justement ces ondes gravitationnelles ?
Alors cette possibilité provient de la nouvelle théorie de la gravité exposée par Einstein dans sa relativité générale. Pour faire simple, contrairement au concept précédent, c'est-à-dire le cadre de la théorie de la gravitation universelle de Newton, publié à la fin du XVIIe siècle, 1687 pour être précis, il n'y a pas d'un côté l'espace-temps, comme on appelle maintenant la combinaison des deux notions, et de l'autre les objets, mais il y a une interaction entre les masses et l'espace-temps. La plupart des auditeurs ont sans doute déjà entendu parler de la courbure de l'espace-temps par la présence des masses. Elle est souvent représentée imparfaitement, puisque dans une vision en deux dimensions, alors que c'est en réalité en 3D, d'un espace-temps flexible dans lequel les objets s'enfoncent plus ou moins selon leur masse, en produisant des sortes d'entonnoirs, ce qui fait que tout objet passant à proximité est dévié, jusqu'à même se mettre à tourner dans l'entonnoir, comme les planètes en orbite autour du Soleil. Ce qui est remarquable dans cette conception de la gravité, c'est que cette déviation s'applique aussi à la lumière, bien qu'elle ne possède pas de masse, car elle se propage, si l'on peut dire, le long de lignes de l'espace-temps, qui peuvent être courbées et non droites, comme lorsqu'on est loin de toute masse. C'est d'ailleurs cette propriété qui a permis la toute première vérification de la validité de la relativité générale dès 1919, en vérifiant lors de l'éclipse totale du 29 mai 1919, que la lumière en provenance d'étoiles dont les rayons venaient à frôler le Soleil était déviée, ce qui nous montrait sur les photos ces étoiles à des emplacements légèrement décalés par rapport à leur position réelle. Pour comprendre les ondes gravitationnelles, on peut partir de cette représentation imparfaite de l'espace-temps élastique dans lequel une masse, par exemple le Soleil, creuse un entonnoir. Si on imagine que par un coup de baguette magique, on pouvait faire disparaître d'un coup la masse du Soleil, on comprend bien que l'espace-temps va se détendre et même vibrer, un peu comme le filet de sécurité dans lequel tombe un trapéziste qui rate son numéro. Les ondes gravitationnelles sont ces vibrations qui vont se propager à la vitesse de la lumière, très loin dans le filet, si je peux dire, de l'espace-temps. Si on prend l'image habituelle pour les ondes des ronds à la surface de l'eau dans laquelle on a jeté une pierre, on comprend que ces ondes sont d'autant plus fortes que l'on a jeté une grosse pierre. Pour les ondes gravitationnelles, qui sont un phénomène très ténu, on ne pourra détecter ces vibrations de l'espace-temps que si elles ont été provoquées par des phénomènes mettant en jeu des énergies colossales, donc des événements violents au cours desquels une énorme masse, comparable à celle d'une étoile comme le Soleil, disparaît en étant transformée en énergie, selon la célèbre équation d'Einstein, E égale mc2. C'est typiquement la fusion de deux trous noirs en rotation rapprochés l'un autour de l'autre ou des phénomènes similaires. La toute première détection de 2015 était la fusion de deux trous noirs d'environ 30 fois la masse du Soleil chacun, pendant laquelle c'est l'équivalent de 3 fois la masse du Soleil qui a été convertie en énergie, produisant des ondes gravitationnelles si puissantes qu'elles ont pu être détectées sur Terre à environ 1,3 milliard d'années-lumière de distance.
Alors comment on fait pour les détecter ?
Alors pour le comprendre, on va oublier les rondes dans l'eau qui sont une image imparfaite et prendre plutôt les ondes sonores qui sont une meilleure représentation des ondes gravitationnelles. Un son, c'est une onde de compression qui se propage dans l'air. C'est-à-dire que quand l'onde sonore passe à un endroit, par exemple dans notre oreille, l'air est alternativement comprimé puis détendu, ce qui fait vibrer notre tympan et permet la perception du son par notre corps. Si on transpose aux ondes gravitationnelles, à leur passage, l'espace est alternativement comprimé et détendu. Et tout ce qu'il contient aussi, un immeuble, une voiture, notre corps ou la... Pour détecter cet effet, c'est très simple dans le principe. On prend une règle bien rigide et on va mesurer ces petites variations de longueur. Mais en pratique, c'est un petit peu plus compliqué, car tout vibre en même temps. Donc il serait impossible de mesurer la longueur avec une autre règle, qui elle aussi serait raccourcie. On va donc prendre deux règles qu'on va placer exactement à angle droit. Et comme l'onde se propage dans une certaine direction, il y a forcément une des règles qui va plus varier en longueur que l'autre. Et c'est la différence des effets entre les deux directions qu'on essaye de mesurer. Le problème ensuite, c'est la longueur des règles à utiliser. Si on imagine que la variation serait de 1%, une règle de 10 cm ne change que de 1 mm, alors qu'une grande règle de 10 mètres varie de 10 cm, ce qui est bien plus facile à mesurer. Pour les ondes gravitationnelles, les variations de longueur sont infimes, bien moins que le pourcent. On doit donc utiliser des règles vraiment très longues. Le LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, le laboratoire où elles ont été détectées pour la première fois, est une installation avec des bras de 4 km de long, dans lesquels il faut maintenir le vide pour faire passer un faisceau laser qui va permettre de mesurer des variations de longueur minuscules. Un peu comme si on pouvait détecter l'épaisseur d'un cheveu posé sur la Lune depuis la Terre. C'est d'ailleurs en améliorant le système de mesure en 2015 que la première détection a été possible. Dernier problème, avec un détecteur aussi sensible, on capte toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec les ondes gravitationnelles. Par exemple, toutes les vibrations du sol, aussi bien les ondes sismiques que le passage des véhicules sur une route à des dizaines de kilomètres. Donc pour être sûr d'avoir observé une onde gravitationnelle, il faut deux détecteurs très éloignés l'un de l'autre pour pouvoir éliminer toutes les vibrations locales et observer exactement en même temps la même secousse. Le LIGO a deux installations identiques séparées de 3000 km, l'une dans l'état de Washington et l'autre en Louisiane, ce qui permet de vérifier le passage d'une onde gravitationnelle avec un écart d'environ 1 centième de seconde, et encore bien plus avec Virgo et Kagra situés sur d'autres continents. D'ailleurs, ces décalages entre différents détecteurs sur Terre permettent de déterminer à peu près d'où vient le signal, afin d'essayer de braquer vers lui des télescopes ou radiotélescopes, en espérant observer le phénomène, ou plutôt ses conséquences, dans le domaine des ondes lumineuses.
Alors, que nous apprennent ces 35 nouvelles détections ?
Alors, comme pour l'ensemble des 90 détections connues, elles concernent toutes les seuls événements assez énergétiques pour que nous puissions les détecter. La fusion de deux trous noirs, les plus nombreuses, avec 32 dans les 35 dernières détections, ou la fusion d'un trou noir avec une étoile à neutrons, plus rare, avec 3 dans la dernière série de 35, mais qui ont la particularité de concerner deux objets de masse très différente, le trou noir étant bien plus massif, dans les 3 à 30 fois la masse du Soleil, que l'étoile à neutrons, typiquement d'une masse assez proche de celle du Soleil. Et plus on détectera d'événements de ce type, plus on pourra en apprendre sur la physique de ces objets très compacts, et aussi mieux connaître leur population dans l'univers. Je rappelle que la toute première détection concernait la fusion de deux trous noirs d'environ 30 fois la masse du Soleil, ce qui était assez surprenant, car on connaissait théoriquement les trous noirs stellaires, c'est-à-dire formés par l'explosion d'une supernova, une étoile très massive en fin de vie, qui serait surtout de quelques masses solaires, typiquement autour de 3 fois à 5 fois. Et on avait découvert aussi le trou noir supermassif au centre de notre galaxie et d'autres galaxies, mais alors on parle de millions de masses solaires. Donc la détection relativement fréquente de trous noirs d'une ou plusieurs dizaines de masses solaires pose des questions sur leur origine et leur importance parmi les étoiles qui peuplent l'univers. Pour ce qui concerne l'avenir, après une nouvelle phase d'optimisation de ces instruments qui est en cours, une nouvelle campagne d'observation doit débuter en 2022. Et l'on voit donc s'ouvrir progressivement un nouveau domaine de l'astronomie en complément de l'observation optique qui exploite les informations portées par la lumière ou plus largement les ondes électromagnétiques dans le cas de la radioastronomie. On pourrait dire que pour connaître l'univers qui nous entoure, après l'image, on a maintenant le son. Mais cette analogie est très approximative, car les ondes gravitationnelles n'ont rien à voir avec les ondes sonores. Dans la prochaine décennie, peut-être vers 2035, les détecteurs au sol devraient être complétés par des détecteurs dans l'espace, avec des tailles bien plus énormes. L'AESA, un projet de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, dont les composants seraient éloignés de 2,5 millions de kilomètres, et pour lequel un prototype destiné à valider la technologie, baptisé l'AESA Pathfinder, soit en français l'éclaireur pour l'ESA, a été mis en orbite et testé avec succès en 2016, et son équivalent chinois Tianqin, dont le nom correspond à une sorte de petit luth, un instrument à cordes, on retrouve la vibration, c'est ça l'idée, avec une base de seulement, si je peux dire, 100 000 km.
Alors Michel, est-ce que vous pouvez nous parler de la découverte d'une exoplanète hors de notre galaxie ?
Alors on a souvent parlé ici des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes découvertes en orbite autour d'autres étoiles que le Soleil. La première détection d'une telle planète autour d'une étoile de la constellation de Pégase, qui est facile à observer dans le ciel en ce moment, remonte à octobre 1995 en France, un petit cocorico, à l'Observatoire de Haute-Provence, mais par deux astronomes suisses de l'Observatoire de Genève, Michel Mayor et Didier Queloz, qui ont reçu pour cela le prix Nobel de physique en 2019. Depuis, le nombre d'exoplanètes détectées n'a cessé de croître, notamment avec le télescope spatial américain spécialisé dans leur recherche, Kepler, qui a été actif de 2009 à 2018, et en a trouvé à lui seul plus de 2600. À ce jour, on approche les 5000 exoplanètes connues. Si on veut être précis, 4871 quand j'ai consulté leur catalogue lundi. Ce qui est bien peu, comparable aux peut-être 1000 milliards qui peupleraient notre galaxie, la Voie lactée, selon une extrapolation statistique de l'Observatoire de Paris. Et encore, ces exoplanètes orbitent-elles autour d'étoiles relativement proches, la plupart à moins de 3000 années-lumière. En quelque sorte, notre voisinage à l'échelle de la Voie lactée. C'est pour cela que l'annonce faite fin octobre dans la revue Nature Astronomy par l'équipe de Rosanne Di Stefano, astrophysicienne du Centre d'astrophysique de l'Université de Harvard, est surprenante. Elle aurait détecté une exoplanète dans une autre galaxie. Cette galaxie est bien connue des astronomes amateurs. Il s'agit de M51, soit le 51e objet dans le catalogue de Messier. Elle est souvent connue aussi du grand public car sa figure caractéristique illustre très souvent des articles ou des présentations d'astronomie, car elle est composée d'une très belle spirale, d'où son surnom de galaxie du tourbillon donné par les Américains, dont un bras allongé semble saisir une galaxie plus petite de son voisinage. Cette galaxie, d'une taille analogue à notre Voie lactée, est située à environ 27 millions d'années-lumière de nous, donc autant dire que pour y détecter une planète, il a fallu des circonstances tout à fait particulières. D'abord, la présence d'une étoile extrêmement brillante, qui est en fait une binaire X, c'est-à-dire une étoile double composée d'une étoile massive, environ 20 fois notre Soleil, autour de laquelle orbite une étoile à neutrons. Ce type d'étoile extrêmement dense est le résidu de l'explosion d'une supernova dont les couches extérieures sont éjectées pendant que le cœur est violemment comprimé pendant l'explosion cataclysmique d'une étoile très massive en fin de vie. Comme cette étoile à neutrons orbite très près de sa compagne, elle en attire le gaz des couches extérieures qui vient tomber sur elle avec une très forte accélération, donc un très fort réchauffement qui produit une émission de lumière très énergétique dans la gamme des rayons X, ceux utilisés dans les systèmes de radiologie qui sont assez puissants pour traverser nos tissus et révéler la structure interne de notre corps. Ces rayons X provenant de l'espace ne peuvent pas être observés depuis la surface terrestre, car, heureusement pour les êtres vivants, les rayons X sont dangereux pour nous, ils sont absorbés par l'atmosphère. Et c'est donc avec des télescopes spatiaux qu'ils sont étudiés, et notamment Chandra, ou on dit parfois Chandra X, de la NASA, lancé en 1999, et qui parmi ses plus de 300 000 sources de rayons X qu'il a détectées, a notamment découvert en septembre 2020 cette binaire X dans la galaxie M51.
Alors comment on peut savoir qu'une planète orbite autour de cette étoile très brillante et très lointaine également ?
Alors c'est assez simple. Dans les mesures réalisées par Chandra pour surveiller l'évolution de cette binaire X, l'équipe de Rosanne Di Stefano a remarqué un petit creux indiquant une baisse temporaire de luminosité. Et après vérification et calcul, il l'attribue à un transit, c'est-à-dire le passage d'une planète entre nous et l'étoile. En effet, quand un tel transit se produit, il est facile de comprendre que la luminosité de l'étoile baisse un peu, en raison de la planète qui fait écran et nous cache une partie de la surface de l'étoile en bloquant une petite partie de la lumière qu'elle nous envoie. Par exemple, pour de lointains observateurs extraterrestres, le passage de Jupiter devant le Soleil produit une baisse de luminosité de celui-ci d'environ 1%, qui est le rapport de surface entre le disque solaire et le disque noir de Jupiter interposé devant. Pour la Terre, ce ne serait que 1/10 millième en raison de la taille bien plus petite de notre planète. Pardon. Cette méthode dite des transits est celle qui a permis le plus grand nombre de découvertes d'exoplanètes et c'est celle qui était utilisée par le télescope spatial Kepler. Quand on peut mesurer un tel transit, cela donne deux indications sur l'exoplanète. Sa taille, comparée à celle de son étoile, comme je viens de l'indiquer, plus elle est grosse, plus la baisse d'éclat est importante. Et sa vitesse de déplacement, qui est donnée par le temps que dure le transit. Pour cette planète extragalactique, les chercheurs évaluent qu'elle aurait une taille proche de celle de Saturne et effectuerait une révolution autour de son étoile double en environ 70 ans. Un petit rappel, pour notre système solaire, Saturne met 30 ans à faire le tour du Soleil et 84 ans pour Uranus. Après cette publication, la réaction des astronomes n'est pas unanime, car certains, comme par exemple Frank Selkis du laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, estiment que d'autres phénomènes pourraient être à l'origine de cette baisse temporaire de luminosité, par exemple un passage d'un nuage de poussière très dense. Et c'est difficile de l'étudier avec plus de précision si elle ne se reproduit pas avant 70 ans. Reste que si cette annonce se confirme dans le futur, il s'agirait bien de la toute première détection d'une exoplanète en dehors de notre galaxie.
Alors on est toujours dans l'actualité, vous pouvez nous parler du retour de Thomas Pesquet sur Terre et de problèmes avec l'ISS.
Alors je pense que de nombreux auditeurs ont pu voir le retour sain et sauf de Thomas Pesquet sur Terre, même si le déploiement un peu poussif d'un des quatre parachutes de freinage de la capsule Crew Dragon a fait craindre un amerrissage un peu plus violent que prévu. Et par rapport à ces images de notre spationaute français, je voudrais faire une petite remarque. On constate à quel point le retour à la gravité terrestre est pénible pour les corps revenant d'un long séjour en apesanteur, au point de devoir être soutenu, voire même transporté avec une sorte de chaise à porteur. Cela nous éclaire sur l'une des difficultés des futurs voyages d'exploration de longue durée. En effet, les longs séjours à bord de l'ISS, généralement de 6 mois, constituent un test, pour ne pas dire une répétition, de ces futurs vols spatiaux à longue distance, comme par exemple vers Mars, qu'on peut atteindre en 6 à 8 mois avec nos technologies actuelles. Les conséquences sur les organismes des astronautes seraient exactement les mêmes, avec notamment la perte musculaire, faute d'avoir à lutter en permanence contre l'attraction du sol, des modifications du squelette, il faut savoir que les astronautes grandissent un peu en apesanteur, du système cardiovasculaire pour répartir correctement la pression dans les artères des pieds au cerveau, ou l'adaptation des systèmes d'équilibre et de mouvement. Mais la différence, c'est qu'à leur arrivée sur Mars, il n'y aura aucun comité d'accueil pour aider les explorateurs à sortir de leur capsule et se mettre debout à la surface de la planète rouge. Ce serait quand même assez ballot de dépenser des fortunes et développer des trésors de technologie pour voir des hommes et femmes ramper lamentablement sur le sol martien et rester barbouillés et désorientés pendant des heures ou des jours avant de pouvoir effectuer la moindre exploration de leur environnement. Avant de viser Mars, je crois que nous avons encore pas mal de progrès à faire dans le domaine de l'adaptation des astronautes au séjour prolongé en apesanteur et surtout de leur retour à l'apesanteur. Une autre remarque à propos de ce retour, c'est que comme souvent dans les missions spatiales, il y a eu de l'imprévu. Le planning prévoyait que l'équipage de la mission Crew 3 devait rejoindre l'ISS quelques jours avant la redescente de celui de Crew 2 dont faisait partie Thomas Pesquet. Mais les conditions météo inadéquates ont obligé à modifier les opérations et finalement le retour s'est effectué le 9 novembre, 2 jours avant l'envoi de Crew 3. C'est dommage car cela nous aura privé d'un petit record avec 2 spationautes européens à bord de l'ISS en même temps, Thomas Pesquet devant y être rejoint par l'allemand Matthias Maurer, ce qui aurait éventuellement pu donner lieu à la première sortie extravéhiculaire 100% européenne.
Et ce contretemps n'est pas le seul souci, je crois, de cette mission et de l'ISS.
Alors effectivement, j'avais déjà signalé ici le rallumage des moteurs du nouveau module russe Nauka qui avait fait basculer l'ISS dans une position imprévue le 29 juillet. Puis la nuit du 8 au 9 août, où les astronautes avaient été réveillés par une alarme incendie suite à un incident lors de rechargement des batteries du module russe Zvezda, vieillissant car il est déjà en orbite depuis plus de 20 ans. Il y a eu aussi de petites fuites d'oxygène dans ce module fin août, ce qui a motivé un petit tour d'inspection de l'ISS par la capsule Crew Dragon avant sa redescente, afin de la photographier sous toutes les coutures et pouvoir vérifier son état général extérieur. Mais la plus grosse frayeur a eu lieu après le départ de Thomas Pesquet, le 15 novembre, quand la station a été mise en danger par une grave menace extérieure. Suite à l'essai d'un missile destructeur de satellite par les Russes sur un de leurs propres satellites hors d'usage, le satellite militaire Cosmos 1408 de 2 tonnes, orbitant depuis 1982 à environ 480 km d'altitude, 1500 débris de plus de 10 cm et des centaines de milliers d'autres trop petits pour être détectables, sont venus polluer une orbite basse polaire, donc croisant régulièrement celle de l'ISS, générant un risque élevé de collision et de dommages. Au point que les 7 astronautes à bord, dont 2 Russes, bizarrement, ont dû revêtir leur combinaison spatiale et se réfugier par sécurité dans leur capsule pour être prêts à évacuer d'urgence 4 à bord de la capsule Crew Dragon américaine et 3 dans la capsule Soyouz russe. Au passage, ces débris menacent également la station spatiale chinoise Tianhe 1, qui orbite légèrement plus bas que l'ISS, avec à son bord 3 taïkonautes depuis la mi-octobre. Heureusement, il n'y a eu aucun dégât à déplorer pour le moment, mais tous les auditeurs qui ont vu le film Gravity peuvent imaginer quelle catastrophe aurait pu déclencher cet événement. Ce test militaire russe est parfaitement illégal dans le cadre des accords internationaux sur l'espace. Le traité de l'espace qu'ils ont signé en 1967, interdisant l'envoi de toute arme dans l'espace, et son article 9 précisant qu'il ne faut pas porter préjudice à l'activité spatiale des autres États. Cet exploit, si je peux dire, leur a donc valu une crise diplomatique, car les autres nations spatiales ont fermement protesté, comme la France, par la voix de sa ministre des Armées, Florence Parly, en parlant de saccageurs de l'espace, ou les États-Unis par l'administrateur de la NASA se disant outrés par cette action irresponsable et déstabilisante. C'était juste oublier un peu vite que le premier tir d'un missile anti-satellite avait été effectué dès 1985 par les USA dans le contexte de la guerre des étoiles du président Reagan, suivi par la Chine en 2007, puis l'Inde en 2019, à chaque fois la nation réalisant un tir sur un de ses propres satellites inactifs.
Alors toujours dans le cadre de votre chronique Astro, Michel, sur Odo Radio, vous allez nous parler bien du sujet, du thème du mois, et notamment les débris spatiaux.
Avec cette actualité du test militaire russe, j'ai pensé qu'il serait judicieux d'aborder ce sujet que nous avions déjà traité ici en septembre 2018. D'autant que je reviens tout juste des RCE, les Rencontres du Ciel et de l'Espace, le grand rassemblement d'astronomie organisé tous les 2 ans par l'AFA, l'Association française d'astronomie, à la Cité des sciences à Paris, et que j'y ai assisté samedi à une conférence sur les débris spatiaux. Je me suis largement inspiré, en la résumant, de cette présentation de Christophe Bonal, chercheur au CNES, Centre national des études spatiales, et spécialiste des débris spatiaux. Pour commencer à appréhender cette question, on peut déjà faire le point sur le nombre d'objets de tout type, satellites, étages de fusée, débris divers, envoyés dans l'espace et se trouvant en orbite autour de notre planète. De 8 en 1960, c'était le début de l'ère spatiale, on est passé en une 60aine d'années à 34 000 objets de plus de 10 cm, dont près de 24 000 catalogués, donc disons d'une certaine taille, alors que par comparaison, il n'y a environ que 4 000 satellites actifs. La limite des 10 cm peut paraître arbitraire, mais elle correspond à la taille minimum pour qu'on puisse les détecter actuellement avec des radars au sol. Il y en a bien entendu beaucoup d'autres plus petits, et on estime à environ 1 million le nombre de ceux dépassant 1 cm et 130 millions de plus de 1 mm. Ces nombres peuvent paraître énormes, mais il faut se souvenir que l'espace est très grand, même sur ses orbites autour de la Terre, et on peut se dire qu'il y a en moyenne 20 gros objets en train de survoler la France à tout moment. Pour ce qui concerne la taille, il ne faut pas croire que les petits objets sont anodins, car en cas de collision, par exemple avec l'ISS, leur énergie cinétique dépend grandement de leur vitesse. Pour ceux qui se souviennent de leur cours de lycée, c'est 1/2 de mv2, v, la vitesse au carré. Et les vitesses orbitales sont très grandes, dans les 28 000 km/h pour l'ISS. Ainsi, un petit débris de 1 mm lancé à ce genre de vitesse possède la même énergie cinétique qu'une boule de bowling lancée à 100 km/h et pourrait donc occasionner les mêmes dégâts. Pour 1 cm, c'est une voiture lancée à 130 km/h. Et pour 10 cm, c'est l'énergie équivalente à 25 kg de TNT. Je laisse imaginer les chocs catastrophiques qui peuvent en résulter.
Alors, question Michel. Avec le temps, ces objets en orbite finissent par revenir sur Terre. Ils devraient être donc de fait de moins en moins nombreux, non ?
Effectivement, par suite du frottement dans l'air très raréfié de la très haute atmosphère qui les ralentit, ils reviennent sur Terre et pas qu'un peu. Il en retombe en moyenne 1 de 10 cm chaque jour. Et on compte environ 2 gros objets, c'est-à-dire carrément un satellite ou un étage de fusée, rentrant dans l'atmosphère chaque mois. Cet événement est très violent pour un engin qui n'a pas été conçu pour ça, ce qui provoque sa destruction aux morceaux plus petits qui brûlent partiellement dans l'atmosphère. Malheureusement, on estime qu'environ 10 à 40% de sa masse, donc en moyenne 20%, atteignent finalement le sol, et souvent ce sont des éléments lourds, denses ou particulièrement bien protégés contre l'échauffement. Heureusement, plus de 70% de la surface terrestre est en fait de l'eau, hein, mer ou océan, et seulement une petite fraction des continents sont peuplés densément, ce qui fait qu'à ce jour, aucun décès ni aucune blessure n'est à déplorer. Mais il n'est pas exclu qu'on n'ait pas fait le rapprochement entre un pauvre paysan retrouvé mort dans son champ et un petit bout de métal gisant un peu plus loin. En tout cas, M. Bonal nous a montré un bel échantillon de photos, de gros morceaux retrouvés ça et là dans des champs, quand ce n'est pas sur la place centrale d'un petit village mexicain, ayant au passage fracassé une branche d'un arbre plus que centenaire. Pour autant, cela ne réduit pas le nombre des objets en orbite, en raison principalement de trois paramètres. Tout d'abord, notre frénésie a envoyé toujours plus d'engins dans l'espace sans jamais les retirer proprement. Après une petite baisse au début des années 2000, le nombre de vols orbitaux réussis a repris sa croissance et remonte progressivement vers les sommets connus entre les années 1960 et 90. D'autre part, selon leur altitude, ces objets sont plus ou moins soumis au frottement sur la haute atmosphère. À 800 km, il faudra plusieurs siècles à un satellite avant de retomber sur Terre. À 1000 km, c'est de l'ordre de 1000 ans. Et enfin, le troisième paramètre est plus pervers. Par suite de collision, les objets spatiaux en orbite voient automatiquement leur nombre augmenter de manière exponentielle. Une collision en entraînant d'autres, comme c'était illustré dans le film Gravity. Et on a du mal à prendre conscience de cette augmentation, car au début, la courbe est relativement douce avant de voir sa pente augmenter de plus en plus. Exactement comme les courbes de contamination lors d'une pandémie. Et je crains que la plupart de nos auditeurs aient une expérience récente de genre d'évolution, et nous sommes même peut-être en train d'en vivre une nouvelle avec la fameuse cinquième vague qui semble déferler sur nous en cette fin d'année. Ce phénomène a été identifié en 1979, puis quantifié en 1992 par Donald J. Kessler, un astrophysicien consultant pour la NASA, d'où le nom sous lequel il est généralement désigné, le syndrome de Kessler, qui peut aller jusqu'à un encombrement tel de l'espace qu'il rendrait impossible le lancement de missions habitées ou l'exploitation des satellites. Bien entendu, cette tendance est accélérée avec la croissance du nombre d'objets envoyés en orbite, et on peut légitimement s'inquiéter de la concrétisation de ce qu'on appelle des méga-constellations de satellites comprenant des milliers d'engins, comme les bien connus Starlink de SpaceX, visant dans un premier temps 12 000 satellites en orbite à l'horizon 2025, dont plus de 1300 sont déjà actuellement lancés, mais qui dans un second déploiement pourraient atteindre 42 000. Il y a aussi d'autres sociétés privées sur ce marché, avec par exemple plus de 3 000 satellites Kuiper pour Amazon, 2 000 pour OneWeb, sans compter des projets similaires d'autres pays, notamment la Chine, ce qui pourrait faire grimper le nombre de satellites actifs à près de 100 000 d'ici 2030, contre, je rappelle, environ 4 000 aujourd'hui.
Mais ces déploiements anarchiques ne sont-ils pas encadrés par des règles ?
Oui et non. Il y a un lent processus en cours, mais qui n'a pas encore abouti à une véritable réglementation contraignante. En une vingtaine d'années, on est passé de quelques standards nationaux, en 1995 pour la NASA, 99 pour le CNES, à des guidelines, hein, des recommandations, disons, en 2002 puis 2007 de l'IADC, Inter-Agency Space Debris Coordination Committee, c'est-à-dire le comité interagence de coordination des débris spatiaux, qui a été créé en 1993 par la NASA et l'ESA, rejoint ensuite par d'autres agences spatiales. Ces règles ont influencé la rédaction d'un code de conduite européen en 2004, puis des guidelines à nouveau des Nations Unies en 2007 et un standard international ISO en 2010, révisé en 2019. Mais aucun de ces textes n'a véritablement force de loi et le seul pays au monde à avoir intégré cette question dans sa législation est, cocorico, la France, avec en 2008 l'adoption de la loi sur les opérations spatiales, hein, qu'on nomme souvent LOS, applicable depuis décembre 2010. Tous ces textes s'appuient sur quelques règles fondamentales à appliquer. Ne pas produire de débris en orbite en connaissance de cause, ce qui devrait notamment interdire la destruction volontaire d'un satellite. Éviter les explosions en orbite, ce qui oblige à passiver, comme on dit, les engins en fin de mission, par exemple en vidant les restes de carburant des réservoirs. Protéger les orbites basses et la géostationnaire en limitant à 25 ans maximum la présence d'un satellite avant de le désorbiter proprement, en le faisant entrer de manière contrôlée dans l'atmosphère, ou à l'inverse, en l'éjectant vers une orbite plus haute où il restera des milliers d'années. Éviter les collisions quand c'est possible, ça suppose de prévoir le risque et de pouvoir manœuvrer au moins l'un des deux engins. Minimiser les risques de victimes au sol, par exemple en contrôlant la redescente d'un objet pour le faire chuter dans une zone inhabitée, comme le sud du Pacifique. Le problème, c'est que cette ébauche de réglementation est très mal respectée, comme le montre le tir russe du 15 novembre.
Alors, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur cette partie-là, Michel ?
Oui, mais ce n'est pas directement en rapport avec le sujet des débris spatiaux, même si cela concerne aussi une menace de chute sur le sol terrestre. Nous avons souvent parlé ici, encore le mois dernier, des astéroïdes, ces centaines de milliers de petits objets, si l'on peut dire, car la plupart ont une taille intermédiaire entre un camion et une montagne, qui circulent dans le système solaire, la plupart entre Mars et Jupiter, mais certains plus près de la Terre, en faisant planer sur nous un risque de collision. Et ce matin, nous avons pu entendre aux infos qu'une mission de la NASA les concernant avait été lancée par une fusée Falcon 9 de SpaceX. Il s'agit de DART, D-A-R-T, hein, pour Double Asteroid Redirection Test, test de déviation d'un astéroïde double. Une sonde d'environ 600 kg, qui, après une trajectoire héliocentrique, c'est-à-dire autour du Soleil, rejoindra l'astéroïde Dimorphos de 160 mètres, satellite du plus gros Apollon d'environ 1,5 km, qui est le prototype même de satellite géocroiseur, c'est-à-dire croisant périodiquement l'orbite terrestre. Entre le 26 septembre et le 1er octobre 2022, DART se jettera dans une mission suicide consistant à percuter le petit astéroïde. Le but de cet essai est de vérifier l'efficacité de cette technique pour dévier un astéroïde qui serait sur une trajectoire de collision avec la Terre.
Allez, toujours en direct sur Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, avec Michel Favret pour sa chronique astro. Et Michel, vous allez aborder la troisième partie de cette chronique et nous parler du ciel du mois.
Alors, comme chaque mois, je renvoie les auditeurs vers la rubrique Ciel du mois de la section astronomie de notre site web www.constellationsetgalaxies.org. Pour avoir des cartes du ciel correspondantes et avoir plus de détails, hein, c'est difficile de montrer des cartes à la radio. Je la mettrai à jour pour décembre, en début de semaine prochaine. Depuis le passage à l'heure d'hiver fin octobre, on peut observer le ciel nocturne très tôt le soir, puisqu'en ce moment, le soleil se couche vers 17h30 et la nuit arrive vers 18h30, 19h si on attend un ciel bien noir. Avec le solstice d'hiver du 21 décembre, ce sera encore un peu plus tôt à la fin décembre, avec par exemple le soir de Noël, le coucher vers 17h20. Bien que nous arrivions vers la fin de l'automne, la nuit précoce fait que le ciel d'été occupe encore une bonne partie ouest du ciel en début de nuit, alors que le ciel de l'automne est installé plutôt dans la moitié est, avec sa constellation vedette, Pégase, s'approchant du méridien sud, bien reconnaissable à un grand carré d'étoiles brillantes, accompagné d'Andromède, dans laquelle les astronomes ne manquent jamais d'observer la grande galaxie la plus proche de nous, à quand même 2,5 millions d'années-lumière. C'est l'objet le plus lointain qu'on puisse distinguer à l'œil nu dans le ciel, et on peut déjà observer comme une petite ellipse laiteuse dans une simple paire de jumelles. Sous le grand carré de Pégase, on peut reconnaître le V formé par la constellation des Poissons, sous laquelle se lève progressivement la Baleine. Avec trois constellations plus proches du nord, Céphée, Cassiopée et Persée, ainsi que Pégase et Andromède, elle illustre la légende de Cassiopée dans le ciel. Les constellations de l'hiver commencent à peine à émerger à l'est avec le Taureau et le Cocher, et il faut patienter jusque vers 21h pour voir la belle figure d'Orion complètement levée. À la fin du mois, la situation sera assez différente avec, dès le début de nuit, Pégase ayant dépassé le méridien sud, accompagné des autres constellations de l'automne à sa suite, tandis qu'Orion sera levé dès 19h. D'ailleurs, ce lever d'Orion en début de nuit vers la fin décembre fait surnommer les rois mages, les trois étoiles bien alignées qui figurent la ceinture dans le dessin habituel de ce chasseur céleste. Côté planète, nous avons toujours la très brillante Vénus qu'on peut apercevoir côté ouest dès le crépuscule et qui se couche de plus en plus tôt, au point d'aller vers sa disparition début janvier. Vers le sud, on aperçoit l'autre phare dans le ciel qui est Jupiter. Sa période d'observation favorable est passée puisqu'elle a déjà franchi le méridien et entamé sa descente vers l'ouest dès le début de nuit. Pour l'observer dans d'assez bonnes conditions, il faut donc le faire plutôt en début de mois et tôt en début de nuit. Dans une simple paire de jumelles, on peut apercevoir ses quatre principaux satellites. Plus à l'ouest, environ la largeur d'une main bras tendu et plus discrète, se trouve Saturne, donc dans une position encore moins favorable pour une observation dans de bonnes conditions, puisque descendant se coucher environ une heure plus tôt que Jupiter, c'est dès 22 heures en ce moment. Pour voir ces anneaux, il faut un instrument d'astronomie, lunettes ou télescope. À noter que pendant la première quinzaine de décembre, ces trois planètes peuvent être observées ensemble dans le ciel du soir, matérialisant par leur alignement le tracé de l'écliptique, c'est-à-dire le plan dans lequel orbitent les planètes autour du Soleil. Comme chaque mois, il y aura quelques conjonctions de la Lune avec ses planètes. Le lundi 6, un fin croissant accompagnera Vénus dans le crépuscule jusqu'à son coucher. Puis le lendemain, mardi 7, un peu plus épais, il sera presque à mi-chemin entre Vénus et Saturne, avant le soir suivant, mercredi 8, de se placer entre Saturne et Jupiter. Et enfin, le jeudi 9, il sera un peu plus à l'est de Jupiter. Ce serait une bonne observation pour voir la progression de la Lune dans le ciel jour après jour. À noter dans les calendriers, le samedi 4, une éclipse totale de Soleil, mais qui malheureusement ne sera observable que depuis l'Antarctique. Et le mardi 21, avec le solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année, marquant le passage du Soleil au point le plus au sud de l'équateur céleste dans son trajet annuel apparent dans le ciel. Petite mention spéciale pour le mardi 22, date du lancement prévu du JWST, le James Webb Space Telescope, retardé de 4 jours. C'était au départ prévu le 18 décembre pour mon anniversaire, mais c'est raté. Le nouveau grand télescope spatial que nous ne manquerons pas d'aborder dans notre prochaine chronique du mercredi 29 décembre, sauf si mes déplacements dans la famille pour les fêtes de fin d'année en décident autrement, et à ce moment-là, elle serait reportée au 5 janvier.
Voilà, merci Michel, on avisera pour la prochaine chronique. C'est vrai qu'on sera sur une période un petit peu spéciale, entre guillemets, voilà, les fêtes de fin d'année. Donc, en conclusion, je ne sais pas si vous voulez apporter d'autres propos. On rappellera bien sûr le site internet où on peut retrouver toutes les chroniques. Et cette chronique que vous venez de présenter, numéro 81, va venir prendre également lieu et place. Donc, je ne sais pas si pour conclure,
Si je peux dire un petit mot de conclusion, j'espère qu'au travers de ce que j'ai dit des débris spatiaux et de leur augmentation exponentielle et du nombre de satellites toujours plus grands qu'on envoie, on prend conscience qu'il n'y a pas que sur Terre que le problème de la pollution, du non-respect de l'environnement se pose, mais il commence à se poser dans l'espace. Alors bien sûr, pas à très grande échelle de l'univers, dans notre voisinage de la Terre, là où on a besoin, entre guillemets, d'un espace propre pour pouvoir faire opérer des satellites et surtout lancer des missions humaines sans danger de risque pour les astronautes.
Allez, merci beaucoup Michel. On rappelle donc le site constellationsetgalaxies.org, mais on mettra quelques infos bien sûr sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, on se verra en fin d'année, soit le 29 décembre ou
soit pour les vœux début janvier.
Voilà, donc on se tiendra informé pour ça. En tout cas, merci pour cette nouvelle et belle chronique astro que venez nous présenter.